France Inter.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Et si je vous disais que nous sommes nombreux à posséder sans le savoir un super pouvoir, un outil magique qui ne demande ni costume ni baguette, mais simplement notre voix. Vous allez vous dire que j'exagère parce que c'est ma passion, mais pas du tout. Le chant, bien plus qu'une simple mélodie, a le pouvoir d'apaiser le stress, de renforcer la confiance en soi, de créer du lien et même d'améliorer notre santé. Vous voulez une preuve? Après un AVC, certains patients incapables de parler parviennent pourtant à chanter des phrases entières. On peut donc le dire, chanter peut contourner la blessure et redonner de la voix à ceux qui l'avaient perdue. Une autre preuve? Une étude allemande révèle que 20 minutes de chant en groupe ou en solo augmente le bonheur, tout en réduisant tristesse et inquiétude. Vous l'avez compris, des neuroscientifiques aux chanteurs amateurs, de plus en plus de voix s'élèvent et pas que pour chanter du Céline Dion. Tous s'accordent à dire que chanter est une force intérieure accessible au plus grand nombre. Si vous faites partie de ceux qui n'osent pas donner de la voix sous prétexte que vous ne chantez pas juste, écoutez bien cette émission qui vous prouvera que ce n'est pas une fatalité. On attend vos témoignages sur ce thème au 01 45 24 7000 ou sur l'appli Radio France. Nous sommes le vendredi 20 août. Grand Bien vous fasse en direct tout l'été pour vous accompagner.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Yasmine Ouglis.
Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Un formidable écrivain. Il recevait des lettres d'un jeune homme qui lui disait « J'ai envie de devenir poète, j'aimerais que vous me donniez un avis. » Et la réponse de Rilke est là, dans ses lettres. « Ne me demandez pas à moi si vous pouvez devenir poète. Si quand vous vous réveillez le matin, le seul désir que vous ayez c'est de faire de la poésie, alors vous êtes poète. Et j'ai envie de te dire la même chose. Si quand tu te lèves le matin, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est de chanter, c'est que t'es vraiment une chanteuse. »
Reconnu un extrait du film Sister Act sorti en salle en 1992. Alors je vous le dis, mon objectif ce matin, il est très clair, vous faire chanter. Comme chaque jour, je suis entourée d'experts qui ont en commun une passion. Cette fois-ci, c'est pour le chant et un savoir en la matière, en tout cas, qu'ils ne demandent qu'à partager avec vous ce matin. Bonjour Marc Archambault.
Bonjour.
Alors vous êtes multicasquette. Vous êtes musicien avant tout, musicothérapeute, psychologue, chef de chœur, et on va voir en quoi le chant est un super pouvoir dans l'exercice de votre pratique. Et vous le constatez parfois quand vous m'écoutez, j'ai bien besoin d'une orthophoniste, ça tombe bien, il y en a une ce matin. Bonjour Mathilde Reiss.
Bonjour.
Donc vous êtes orthophoniste et pédagogue en chant improvisé. Alors ça c'est quelque chose et vous allez nous en parler tout à l'heure. Bonjour Marlène Schaff.
Bonjour Yasmine.
Vous êtes connue du grand public pour votre rôle de professeur à la Star Academy, mais vous êtes avant tout chanteuse et comédienne. On vous retrouvera bientôt sur scène, dans un seul en scène, Queen is Born.
Absolutely.
Et dans une semaine, tic-tac, tic-tac, un single qui sort, même pas peur. Donc on va parler de votre spécialité, le chant. Et en ligne également ce matin avec une autre chanteuse. Bonjour Magali Ripoll.
Bonjour Yasmine, bonjour tout le monde.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Donc je l'ai dit, vous êtes également chanteuse, vous êtes musicienne et vous êtes la choriste la plus célèbre de France. On vous retrouve tous les jours sur France 2 dans N'oubliez pas les paroles et à partir de septembre en tournée avec la troupe de Héritage Goldman. Voilà, ce chant qui a des super pouvoirs et qui est notre passion à tous ce matin. Mathilde Reiss, vous qui êtes orthophoniste et musicienne, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que chanter sur le plan physiologique ?
Oui, alors le chant en fait, il passe par trois étapes ou trois étages avant de se produire. Donc on va d'abord avoir besoin pour ça de respirer et donc d'air et donc de la soufflerie. Donc la soufflerie, elle se trouve dans nos poumons. Donc l'air va être envoyé petit à petit vers nos cordes vocales qui, elles, en se modulant, vont faire des sons plus ou moins graves ou plus ou moins aigus en fonction de la tension qu'elles ont. Et puis elles vont arriver, ce son va arriver petit à petit dans ce qu'on appelle les résonateurs. Donc ça peut être le nez, la bouche et la tête, voire le corps entier, pour pouvoir colorer en fait ce son et se propager vers notre auditeur.
C'est incroyable ce qui se passe sans le savoir, parce qu'on chante, mais on ne sait pas ce qui se passe dans notre corps quand on le fait. Est-ce que c'est une capacité qui est innée ou qui s'acquiert ?
Alors, on a tous des limites au niveau physiologique aussi. Par exemple, on ne va pas demander à quelqu'un qui a une voix très très grave de pouvoir chanter des sons très très aigus, mm-hmm. mais ceci, tout le monde peut produire un son chanté. Normalement, tout le monde peut le faire. Après, il y a des capacités qui se travaillent. Par exemple, tenir une note le plus longtemps possible, c'est un exercice qui demande beaucoup de savoir-faire. Et donc, pour ça, on est très heureux d'avoir des coachs en voix qui peuvent nous aider à améliorer cette capacité.
En tout cas, même les bébés chantent, on les entend chantonner dès le début, donc c'est un peu inné.
Oui, surtout quand vous avez ces petites lallations, donc les enfants qu'on voit jouer avec un petit peu la bouche aussi, tenter des sons, et grâce à ce jeu, ils vont aussi du coup découvrir toutes leurs possibilités vocales. Et puis on a aussi ce bain aussi musical, parce qu'on parle beaucoup du bain de langage, mais le petit, il a aussi besoin d'être immergé en fait dans des sons et dans une culture musicale, et c'est tout ce bain aussi plus tard, quand il va avoir intériorisé tout ça, qui va permettre pour lui après de s'exprimer, de chanter et peut-être d'improviser.
On va voir ça ensemble. Marc Archambault, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu'on chante ?
Oh là là, il se passe beaucoup de choses dans le cerveau quand on chante. En fait, le chant monopolise plein d'aires cérébrales très différentes. Donc, du néocortex jusqu'au bulbe rachidien, avec
les
aires motrices, avec plein de choses. Et donc, il met en jeu des aspects cognitifs, et il met en jeu aussi des aspects émotionnels. Il est très très riche, en fait, sur la manière dont il monopolise le cerveau.
Ouais, il l'active sur plusieurs zones, donc, le cerveau. Marlène Schaff, le chant, je l'ai dit, c'est votre passion. Si on vous demande quel est le super pouvoir du chant, vous répondez ?
De parler la même langue que le monde entier.
Ouais. Pour vous, c'est le chant qui rassemble ?
Ah oui.
Comment vous avez découvert, vous, les super-pouvoirs du chant ? Parce que je sais que pour vous, on les met au pluriel, bien sûr.
Comment je l'ai découvert ? Moi, d'abord, ça a été le piano. C'est comme ça que j'ai découvert la musique. Et le chant, je le faisais de manière très pudique quand je rentrais de l'école et que personne n'était à la maison. Et je me souviens, j'essayais d'imiter les sons que je trouvais extrêmement cathartiques des chanteuses comme Whitney Houston, Mariah Carey, du gros belting, on appelle ça. Et donc je faisais ces sons-là sans évidemment savoir ce que je faisais. Et ça me faisait un bien fou d'aller chercher tout ça, et je me suis vraiment moi mise à chanter quand les frères Hanson sont arrivés avec Mbapp. Et là je me suis dit, mais je peux faire autre chose avec mon piano que juste jouer du piano.
Et alors, vous avez découvert à quel moment que vous aviez une voix ? Et quand je dis une voix, c'est bien évidemment une voix, une jolie voix, quoi. Une voix qui peut plaire aux autres, une voix qui peut vous permettre de vous exprimer.
Eh bien, je pense grâce à une copine de lycée, vraiment quelque chose de totalement anodin, voyage scolaire, soirée karaoké, une fille qui prend une chanson de Mariah Carey, qui se rend compte qu'elle sait pas la chanter. Tiens, Marlène. Et je me retrouve
quel
à chanter.
Quel beau cadeau.
Et je me suis retrouvée à chanter ça, et tout le monde me regardait en disant, mais tu sais chanter en fait ? J'ai dit,
vous découvrez au lycée que vous avez cette voix-là. Avant ça, vous accompagnez le piano, quoi.
J'avais pas de public. Je le faisais juste pour moi.
Ah, d'accord. Mais ça, alors, on va voir avec Magali Ripoll, qui est en ligne avec nous. Est-ce que vous pouvez, vous aussi, nous raconter votre rencontre avec le chant, qui, je crois, c'est avant tout passé par un instrument pour vous aussi ?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, bonjour Marlène.
Salut Mag.
Elles se connaissent.
C'est vrai que à t'écouter, à raconter ton parcours, ton expérience et de découverte avec le chant, je me reconnais vachement. Je crois qu'on a fait un petit peu les mêmes choses à distance. En fait, c'était un petit accident aussi. J'étais pianiste dans un groupe au lycée. Je chantais depuis toute petite et on avait remarqué que je chantais juste, mais bon, voilà, sans plus. Et je me suis retrouvée à devoir remplacer la chanteuse du groupe dans lequel je jouais du jour au lendemain parce qu'elle est partie. Et il fallait que je chante du Led Zepp, du Céline Dion, du plein de choses. Et là, je me suis dit, waouh, c'est cool, je crois que je peux le faire. Mais je chantais aussi en cachette, surtout pendant la période d'adolescence. Chez moi, au piano, je chantais à fond du Elton John, plein de choses. Et dès que j'entendais la voiture de ma mère qui arrivait devant la porte, je m'arrêtais.
Ouais, donc il y avait quand même cette notion du regard des autres, quand on donne de la voix, et ça, on va en parler bien évidemment plus en détail un peu tout à l'heure. Pour vous, Magali Ripoll, est-ce que chanter, c'est un moyen de vous ancrer dans votre corps ?
Oui, exactement. Et c'est avant tout un moyen de me sentir libre. Je pense que quand on chante, on peut se connecter avec cette sensation de liberté intérieure et donc extérieure aussi. Et c'est vrai que c'est la pudeur qui vient en premier, mais cette pudeur n'existe pas quand on est enfant, quand on est bébé, justement, parce qu'on est sur l'instinct. Et c'est en même temps drôle et assez contradictoire, parce qu'il faut aller à la recherche et intellectualiser toutes ces choses dont vous parliez, Mathilde, justement, et Marc également, pour pouvoir retrouver cette sensation de liberté intérieure et d'instinct. Et le fait de chanter doit être tellement naturel, et en même temps, on doit le retrouver, respirer correctement, et en même temps faire vibrer des choses dans son corps. C'est marrant, ça fait toute une connexion des pieds à la tête, je trouve, mais on a du mal à retrouver ça quand on est plus grand, quand on est adulte et qu'on est conditionné et plus pudique, quoi.
Oui, bien sûr. Mathilde Reiss, justement, est-ce que la voix, c'est un outil intéressant lorsqu'on est orthophoniste, le fait de faire chanter, par exemple, ses patients?
Oui, c'est intéressant à plus d'un titre. Déjà, c'est chanter, on peut le faire aussi de manière à masser un peu les cordes vocales. Donc par exemple, le matin, je vous invite tous, si vous avez l'occasion, de faire un petit un petit comme ça, chanter, qui peut permettre de décoller un petit peu tout ce qui est du matin. Et puis vous avez aussi en orthophonie, le chant peut permettre de réguler la respiration, par exemple. Mm-hmm. Donc apprendre justement à chanter et prendre conscience de sa respiration, ça permet après d'avoir une voix beaucoup plus posée, ce qui peut être utile quand on veut justement améliorer le débit de parole, par exemple.
Ah oui, et pas dans l'exercice du chant. Finalement, ça nous sert, le chant nous sert à travailler autre chose. Vous, Marc Archambault, dans le cadre de vos ateliers, comment vous utilisez le chant ?
Alors, j'utilise de plein de manières différentes. Je peux l'utiliser en chant chanté, dans le sens où il y a une mélodie qui peut être connue et puis qui est chantée dans le cadre, par exemple, d'une chorale. Mm-hmm. Mais ça peut être aussi souvent sous la forme d'une improvisation dans les ateliers de musicothérapie, par exemple. Et donc là, la voix peut, ça peut être de la beatbox, des onomatopées, jusqu'à l'imitation d'instruments, jusqu'à l'improvisation avec la voix. Donc il y a plein de manières de l'utiliser, et je dirais qu'ils sont progressives aussi, pour la manière dont on utilise la voix, quand on a peur du regard des autres, quand on se dit qu'on ne sait pas chanter. On peut commencer par une onomatopée, par exemple, qu'on va boucler. Mm-hmm. On a des outils formidables maintenant, technologiques, donc on peut boucler des petits sons, et comme ils se bouclent, ils font un rythme à la voix, et on peut superposer des choses dessus, et les gens s'entendent.
Déjà, c'est la première chose, effectivement, quand on s'entend, c'est comme quand on s'entend parler, on découvre sa voix, finalement. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais quand même qu'on commence cette émission par cette idée reçue de chanter faux. Est-ce qu'on... Ça existe, ça, Mathilde Reiss, de chanter faux?
Oui, malheureusement, parfois on l'entend. Il y a des gens en fait qui parfois n'ont pas le feedback, le recul suffisant. Ils n'ont pas l'oreille qui fait qu'ils peuvent entendre qu'ils chantent faux. Donc
d'accord.
Déjà pour avoir ça, il faut déjà entendre qu'on chante faux pour pouvoir modifier le comportement. Mm-hmm. Et aussi, il y a des gens qui ont parfois des problèmes de contrôle en fait des petits muscles qui sont à l'intérieur du larynx, et donc qui vont peut-être étirer un petit peu trop la voix, qui fait que ça va devenir trop aigu par rapport à ce qui est attendu. Et donc là, on est plus sur du contrôle, on va dire, musculaire de l'appareil vocal.
Marlène, vous qui coachez des élèves à la Star Academy, mais en vrai aussi, quelqu'un qui arrive et qui me dit « de toute façon, moi je peux pas chanter, je chante faux », qu'est-ce que vous lui dites ?
Moi, je suis évidemment d'accord avec Mathilde, mais je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui chantent faux que ce qu'on pense. Je dirais que 100% des élèves, j'ai dû coacher, je pense, ça se compte par milliers, les chanteurs avec lesquels j'ai pu travailler, que ce soit en amateur ou en professionnel, et 100% de ceux qui me disaient chanter faux ne chantaient pas faux. C'est des fausses croyances, c'est beaucoup de pudeur, c'est l'humour de la société à dire dès que quelqu'un ose émettre un son chanté, oulala, il va pleuvoir. Et donc, quand on ne sait pas mieux, on se dit, depuis que je suis tout petit, on me dit que je chante faux, donc c'est que je chante faux. Et donc on se fait chanter faux soi-même, puisque notre instinct va être de chanter juste, mais comme on nous a dit qu'on chantait faux, on modifie. On se fait chanter faux.
Alors je m'excuse auprès de certaines personnes de ma famille à qui j'ai déjà dit qu'ils chantaient faux.
Ouais.
voilà, c'est pas vrai, vous chantez juste en fait. Yasmine Ouglis.
Elle a toujours chanté comme ça.
Ah non, elle a beaucoup progressé.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Chanter dans le dictionnaire, c'est l'action de former la voix avec une suite de sons musicaux. Quelques mots bien trop ternes pour définir ce super pouvoir qui agit bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Marlène Schaaf, vous qui êtes chanteuse et comédienne, le super pouvoir est-il pour vous aussi, Magali le disait tout à l'heure, hein, de vous transporter le temps d'une chanson ?
Ah bien sûr, évidemment. Mais d'ailleurs, je serais très curieuse d'avoir l'avis de nos scientifiques. Je crois que j'ai lu quelque part que c'était pas tout le monde qui avait la chair de poule quand on écoutait de la musique ou que on chantait soi-même. Et moi, je sais que c'est quelque chose de très viscéral chez moi. Ça me provoque vraiment physiquement quelque chose, la musique, et je pensais que c'était pour tout le monde ça.
Non, c'est pas partagé du tout en fait, mais il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement sensibles à la musique. Et ça peut se dérouler physiquement à l'écoute, il y a vraiment des émotions qui apparaissent, etc. Et puis il y a un certain nombre de gens qui sont pas très nombreux, qu'on dit amusical, en fait, ils ont pas la sensation, ça déclenche pas des émotions chez eux, et parfois ils reconnaissent même pas les mélodies aussi.
C'est fou. En fait, on est vraiment pas tous égaux face à ce ressenti de la musique, alors.
On n'est pas tous égaux. De manière générale, quand même, la plupart des gens ressentent des choses avec la musique. C'est pour ça que c'est un bon outil thérapeutique, justement. Mais chez certaines personnes qui se protègent de leurs émotions, par exemple, aussi, il y a un contrôle qui est exercé qui fait qu'on se laisse pas aller. Et
Là, par exemple, j'ai reçu un message, coupe parce que c'est totalement lié. C'est Erika qui nous dit « J'ai beaucoup chanté quand j'étais jeune et aujourd'hui j'aimerais mais je ne peux plus. Dès que je commence, ma gorge se noue, j'ai envie de pleurer, l'émotion me submerge et je ne peux pas continuer. » Il y a certainement quelque chose qui se passe dans son cerveau.
Il y a plein de choses qui se passent dans le cerveau. Moi, ma première expérience, c'était avant de rentrer vraiment dans le domaine du soin, c'était quand j'étais prof de chant. Un jour, je donnais un cours de chant à une dame qui devait avoir une quarantaine d'années, et elle a sorti un son qui était vraiment où elle était en contact avec son propre corps, pour la première fois. C'est question de soutien dans le chant, et donc un son plein, etc. Et juste après, elle est partie en sanglots. Elle était débordée par quelque chose, et donc je l'ai fait s'asseoir, prendre un verre d'eau, on a fait une petite pause, mais parce qu'elle avait le chant, parfois, quand on chante, on touche des choses de l'ordre de l'intime, de notre propre corps, de notre intimité, parfois qu'on ne va pas chercher d'une autre manière.
Ce sont des émotions enfouies.
Ça peut être des émotions enfouies. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié à l'identité, parfois, qui se révèle avec le chant aussi. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile de chanter pour certaines personnes devant les autres. Parce que ça met quelque chose en jeu de notre personnalité profonde. Et d'où ce qu'on disait tout à l'heure sur... l'influence des quolibets, des mots qui sont pas agréables quand on chante, parce que ça peut figer quelqu'un. Et donc, comme il est figé,
et créer
après...
un blocage, en fait. Peut-être là, ce qui est le cas, d'ailleurs, pour Erika, qui nous a écrit. Mathilde Reiss, vous avez, vous, déjà assisté à un bouleversement émotionnel provoqué par le chant ?
Oui, alors, dans le cadre de stage, parfois, justement, au niveau du chant, il y a tout à coup, justement, ce que vous disiez sur le fait de s'exposer. Alors, c'est particulièrement flagrant quand on est seul, où on essaye, on sent que la voix, elle est un petit peu à l'intérieur, elle ne s'ouvre pas. Et puis, tout à coup, on va avoir quelqu'un qui va nous dire, bon, allez, vas-y, lâche-toi, le fameux lâche-toi, qui fait que parfois, on se dit, ok, allez, hop, on lâche, on y va. Et puis, tout à coup, il y a cette voix qui sort et on se dit, waouh. Et en fait, ça sort et on a l'impression que c'est pas nous. Et donc ça rejoint cette idée d'identité. On me dit, mais j'ai jamais entendu ma voix comme ça. Ouais. Et ça, parfois, je l'ai constaté dans certains groupes de personnes qui se surprennent eux-mêmes, et on le voit, parce qu'il y a les yeux qui s'ouvrent très grands, et ils sont en train de regarder autour si c'est pas quelqu'un d'autre qui a fait le son. Et ça, c'est assez c'est beau aussi à voir, un peu ce lâcher-prise.
C'est un lâcher-prise, c'est encore une fois libérer quelque chose. Le chant, il a le pouvoir d'apaiser, il a aussi parfois le pouvoir de soigner. On écoute un extrait du documentaire « Quand la la musique est bonne pour notre santé, diffusé en décembre 2024 sur France 5.
Dans ses vidéos, qu'il a pris l'habitude de poster sur les réseaux sociaux, il forme un duo uni dans la maladie.
Ça fait 8 ans que ma grand-mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer et elle se rappelle à peine de moi maintenant, quoi.
Mais quand Fabien prend la guitare, rythme, refrain, parole, peu à peu, tout ressurgit.
Tu aimes bien quand on fait de la musique ensemble?
Oui, et la musique, oui.
Dès qu'on met ces petites chansons, elle revient. C'est le seul petit moment de connexion qui nous reste.
Très émouvant de constater ce super pouvoir-là du chant. Mathilde Reiss, dans le cadre de votre activité d'orthophoniste, est-ce que vous pouvez nous raconter d'autres exemples comme ça de personnes qui ont retrouvé quelque chose grâce au chant ?
Oui, alors cet extrait, il est particulièrement touchant et il fait penser un petit peu à ce qui avait été amorcé par justement le médecin Odile Le Tortue, qui était gériatre en EHPAD et qui a beaucoup travaillé auprès des patients qui étaient atteints de maladies neurodégénératives. Et elle avait justement mis en évidence ces fameuses capacités préservées, notamment dans le chant chez ses patients. Et elle était venue solliciter des chercheurs de l'université de Caen, de l'INSERM, notamment Hervé Platel et Mathilde Groussard, pour essayer de comprendre ce phénomène. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait effectivement des capacités préservées chez les personnes. Et cet effet a été étudié. Et dans ma pratique, je suis tombée justement sur les articles de ces chercheurs. Mm-hmm. Et en tant qu'orthophoniste, j'avais essayé de mettre en place des ateliers chants donc, dans un accueil de jour. Oui. Et alors, c'était assez fascinant parce que j'avais des personnes qui ne se souvenaient pas d'être venu faire un atelier avec moi, parce que dans cette maladie, dans les maladies neurodégénératives, souvent vous avez un peu la perte de cette fameuse mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire de l'ici et maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait hier, à quel moment, etc. Donc cet aspect-là n'est pas retenu, mais pour autant, tout ce qui était la musique ou même, par exemple, le fait d'apprendre une petite chanson, si j'amorçais un début de musique qu'on avait fait la veille, hop, la personne continuait quand même à faire la musique. Mais si je lui demandais, ben, on s'est vu hier pour faire l'atelier, oh non, non. Donc il y a vraiment cette dissociation en fait, entre différents types de mémoire et la mémoire musicale, elle est très très résistante à la maladie. Et ça, c'est magique.
Vous l'avez constaté, vous aussi, Marc Archambault, dans le cas de...
Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. C'est qu'on a vu aussi que... de toute façon, il y a différents types de mémoire, hein, mais que sur même la mémoire sémantique verbale, on peut perdre, dans la maladie d'Alzheimer, des capacités à mémoriser. Mais c'est, parfois, on voit qu'avec la musique et le chant, c'est préservé. Alors que c'est toujours de la mémoire sémantique. Et ça, c'est vraiment très, très étonnant.
Ouais, c'est étonnant, j'irais même un peu mystérieux. Marlène Schaff, en préparant cette émission, vous nous avez aussi rappelé quelque chose d'assez mystérieux. C'est que selon certains chercheurs, la voix de Nolwenn Leroy, gagnante de la deuxième émission de la Star Academy, a presque des effets magiques.
Mm-hmm. Oui, j'avais entendu parler de ça. Alors, je ne me souviens plus exactement avec précision, mais je sais qu'il y avait des chercheurs, il me semble que c'était aux États-Unis, qui avaient étudié la voix de Nolwenn. Il me semble que c'était sur les nourrissons. Elle avait des fréquences dans sa voix qui, je ne sais pas, calmait ou quelque chose qui ne me surprend pas, parce que c'est vrai qu'elle a un timbre très particulier avec énormément de douceur, de velours dedans. Mais il y a aussi les moines bouddhistes qui pratiquent le chant d'une manière assez thérapeutique, ce qu'on appelle le chant guttural, avec des sons de... comment ça s'appelle quand on fait deux sons diatoniques, qui chantent deux notes en même temps, ils créent des fréquences qui soignent, véritablement, font des voix saturées aussi.
Trop basses.
Ça c'est exceptionnel, ça.
On parle aussi de l'importance des sons graves.
Ouais, bah c'est ça, c'est ça. Ce que Marc était en train de dire.
Magali Ripoll, en étant sur le plateau de N'oubliez pas les paroles, vous devez voir beaucoup de candidats se libérer, eux aussi. Ils se libèrent de quoi ?
Ben de leur chaîne sociale. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'acceptation totale du fait de chanter et de ne pas être dans le jugement, dans l'auto-jugement déjà, et aussi dans le jugement des autres. Et ils sont là pour jouer. Alors c'est là que N'oubliez pas les paroles réunit tous les éléments dont on a besoin pour se sentir bien en tant que chanteur amateur. Si je veux être chanteur ou chanteuse et que je n'ose pas le faire, c'est vrai que pour le coup, le plateau de N'oubliez pas les paroles, c'est un terrain de jeu parfait. Parce qu'ils ne sont pas là pour bien chanter, ils sont là pour trouver des paroles. Donc si le fait de chanter devient presque accessoire, alors que c'est quand même aussi un des éléments principaux, parce que c'est une émission musicale. Donc c'est là que c'est très fort, enfin c'est le hasard qui a aussi bien fait les choses, mais tous les maillons sont réunis. Parce que même si quelqu'un ne chante pas bien, chante faux, et ben tant pis. Voilà, les musiciens sont là, on l'accompagne et ça permet, enfin ça fait un appel à la tolérance du public qui lui-même tombe amoureux de certains candidats ou candidates quand bien même ils ne chantent pas très bien.
Et en fait, c'est des candidats qui auraient peut-être pas pris le micro devant une assemblée dans une salle de concert pour chanter. Là, le fait qu'ils jouent, ça détourne un petit peu leur attention, si je puis dire.
Exactement. Et puis il y a différents profils aussi. Il y a celui ou celle qui sait qu'il ne chante pas bien, ou alors à qui, justement, comme le disait Marlène, on a dit depuis des années où tu chantes faux, tu chantes pas bien. Donc celui qui se lance. Et il y a aussi celles et ceux qui rêveraient d'être chanteur ou chanteuse professionnelle et qui ont largement les capacités pour le devenir, mais qui, après l'émission, prennent en confiance et se lancent et arrêtent le métier qu'ils pratiquaient jusqu'alors et se lancent dans la chanson.
Là, on peut parler d'une libération, puisque c'est carrément un changement de vie que ça occasionne. Alors, souvent, et on l'a dit d'ailleurs depuis le début de cette émission, quand il est question du chant, il est question du regard des autres. Marc Archimbault, vous êtes musicien, psychologue, musicothérapeute. Selon vous, comment on fait pour oser en fait s'exprimer à travers le chant? Ça peut passer par quoi?
Alors ça passe déjà par la confiance qu'on établit avec les autres. En fait, dans les ateliers, c'est la première étape. Donc c'est vraiment que les gens se sentent en sécurité, qu'ils se sentent non jugés, et c'est ce qui est nécessaire en fait au départ. Pour créer un climat qui permet de chanter. Et après, c'est ce que je disais à un moment dans l'émission, c'est qu'on peut y aller vraiment par des petites choses au départ. Mmh. Hein, et donc, sans parler d'ateliers thérapeutiques, si vous êtes chez vous, vous pouvez déjà chanter sans le regard des autres et vous faire plaisir. Et puis, s'il y a d'autres personnes, eh bien, on peut chanter en chorale. Déjà, on est mélangé dans un groupe.
Le chant choral, évidemment, on va en parler parce que oser se lancer, c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde et ça peut nous porter.
Grand bien vous fasse. Yasmine Oulis sur France Inter.
Une fois qu'on a osé se lancer et qu'on ne se cantonne plus à chanter sous la douche, mais qu'on peut donner de la voix sans craindre le regard des autres, on accède au bonheur que connaissent tous les passionnés de chant, dont ceux qui sont sur notre plateau aujourd'hui. Mais ce bonheur, il est encore plus puissant lorsqu'il est partagé. Mathilde Ress, vous êtes orthophoniste, vous êtes musicienne et vous participez à une initiative formidable qui s'appelle Chant pour tous. Expliquez-nous le concept.
Alors, Chant pour tous, c'est apparu en 2012 à Lyon, à l'initiative de Lyonnais, qui ont voulu en fait rendre justement la musique et le chant accessibles à tous, qu'on soit petit ou grand, et qu'on ait un bagage musical ou non. Et donc, le principe, c'est que c'est toujours vocal et corporel, toujours improvisé sur le moment, ouvert à tout le monde et gratuit. L'avantage aussi, justement, que ce soit vocal et corporel, c'est qu'on engage aussi d'autant plus le corps et la respiration, parce que c'est des ateliers qui se font debout. Donc on est tous ensemble, réunis. En général, c'est une dizaine, quinzaine, voire une cinquantaine de personnes. Et tout ce moment-là, en fait, est fait pour créer de la musique ensemble pendant plus ou moins 2 heures.
Donc 50 personnes, imaginons, ensemble, sans texte, sans parole, sans chanson au préalable, on improvise. Comment ça se passe ?
Eh bien, concrètement, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Marc, c'est qu'effectivement, il faut déjà créer ce lien de confiance. Mm-hmm. Donc, on commence par des jeux, on essaye peut-être de se connecter via le regard. On essaye après de se mettre à l'aise sur le fait de pouvoir improviser. Alors, tout petits morceaux, donc pas se lancer des énormes défis. Et une fois qu'on a pris un petit peu le pli de créer de la musique, d'abord pour soi, on peut faire des espèces de chaos où tout le monde improvise en même temps, comme ça on ne s'écoute pas et on ne sait pas ce que fait le voisin. Et puis petit à petit, on va se dévoiler, s'exposer au groupe. Et puis bah, ça se fait d'autant plus facilement quand on a construit ce fameux lien de confiance et quand on s'est prouvé aussi à soi-même qu'on était capable de le faire.
On peut se dire que de toute façon, le groupe porte.
Oui, oui, oui. Alors généralement, il y a des ambiances extrêmement agréables dans ces groupes-là. Et il y a aussi ce partage aussi de la responsabilité de créer. Donc on peut d'abord une première fois créer une première partie de la chanson et puis laisser la place à quelqu'un d'autre qui viendra peut-être compléter ce que vous avez fait. Et donc bah, tout ça, ça crée de l'interaction,
le lien,
ça crée du lien.
Ouais. Alors Marlène Schaff, vous avez été chef de chœur et vous dites qu'il y a un sentiment d'harmonie unique dans une chorale.
Oui, bah déjà à commencer par le fait que le son qu'une chorale produit, c'est unique, ça n'arrivera jamais une seconde fois. Même si on reprend les mêmes personnes un autre jour, peut-être quelqu'un ce matin qui s'est levé du mauvais pied, hein, qui est un petit peu malade, que sais-je. Le son qu'une chorale crée, c'est un cadeau unique. Et qu'on soit chef de chœur, avoir l'offrande du groupe, c'est... Franchement, Yasmine, il n'y a rien de plus fort, quoi. D'avoir un collectif de voix, 20, 50, 100. Je me suis déjà retrouvée l'année dernière, la dernière saison de la Starac. Je crois qu'on a eu plus de 1000 choristes sur le plateau. Je peux vous assurer que là, j'étais pas chef de chœur, j'étais au milieu des 1000. Quand ils se lèvent d'un coup d'un seul, ça me met la chair de poule, rien que d'y repenser, et qu'ils se mettent à tous chanter ensemble.
Ah oui.
Moi, j'ai toujours dit qu'il y aurait beaucoup moins de guerre dans le monde si on osait plus chanter les gens, je vous le dis.
Ça, c'est la puissance voilà, de cette chorale, du chant qui rassemble, le chant qui nous fait partager. On a une auditrice en ligne ce matin. Bonjour Marie.
Oui, bonjour.
Alors pour vous, le chant, c'était avant tout le chant en famille.
Oui, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par ma maman et c'est pour ça que je vous ai téléphoné. Je voulais faire un hommage à ma mère qui a toujours chanté chaque instant de notre vie. Ça a commencé tout petit avec des petites chansons enfantines et puis après effectivement tous les moments de Noël, tout ça, on chantait ensemble. À trois, quatre voix. C'est-à-dire que mon père, il était à la basse, maman était soprane. Moi, je copiais maman, puis les cousins, cousines, c'était plutôt mezzo. Et
là, c'est vraiment le partage familial. Et aujourd'hui, vous chantez toujours ?
Alors, moi, je suis chanteuse, j'en ai fait mon métier par hasard.
Par hasard, vous dites ?
Oui, parce que je suis avant tout comédienne et le chant, quand il y avait quelque chose à chanter, on disait toujours ben, Marie, elle est là, elle peut chanter parce que, en fait, c'est un deuxième souffle pour moi. Chanter, c'est un deuxième souffle.
C'est marrant ce que vous dites parce que finalement, oui. Vous avez peut-être entendu tout à l'heure Marlène Schaff et Magali Ripoll dire que pour elles également, c'était pas le chant au départ. C'était la musique. Pour vous, c'était jouer sur scène et ensuite vous en êtes venu à chanter. C'est ce que vous vouliez partager avec nous ce matin ?
C'était ça, c'était l'idée que ben, les mamans, il faudrait qu'elles chantent à leurs enfants des petites chansons tout le temps. Enfin voilà, le chant, ça apaise, ça berce. Et puis quand on devient plus grand, eh bien, on se sent plus fort quand on sait chanter une chanson. Et franchement, je trouve que... Puis ça met des mots sur la vie, quoi.
Vous avez décrit vraiment tous les super pouvoirs du chant. Merci beaucoup, Marie, d'avoir partagé tout ça avec nous ce matin. Donc, voilà. Que les mamans chantent avec leurs enfants, super. On chante même quand on est enceinte. Et puis après, eux, ils chantent du Joule. Que voulez-vous ? On a plutôt le pouvoir sur nos enfants. On fait ce qu'on peut. En tout cas, on l'a vu, oser se lancer, prendre le micro. Aujourd'hui, pour partager avec les autres ce moment de chant, ça peut être aussi à travers des salles de karaoké. Qui n'a pas eu envie de se lâcher sur un. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous le vent. Le feu du soleil au visage et le bleu des océans. Je veux des chameaux, des mirages et des déserts envoûtants. Des caravanes et des voyages comme sur les dépliants. Oh.
Qu'importe, j'irai où bon te semble. C'était ma dernière. J'étais obligée de chanter. Yeah, je suis désolée.
Merci.
Merci beaucoup. Marlène Schaff, cette façon de partager, cette façon de se rassembler autour du chant, l'essor des salles de karaoké, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est génial. C'est absolument génial. Et moi, en plus, l'année dernière, j'ai eu la chance et le privilège d'aller jouer en Corée. Et alors, la Corée, c'est l'autre pays du karaoké. Hein. Il y a carrément les gens réservent des booths où ils sont tout seuls. Juste, ils viennent avec leur famille, ils ont un écran, ils chantent. Et c'est absolument incroyable. C'est un endroit de divertissement pur où on n'a pas peur. Bon, parfois, il y a quelques petites substances qu'il faut évidemment... voilà, consommer avec modération, qui peuvent libérer le chant.
Avec modération,
ça se finit souvent
dit.
Avec les lacs du Connemara, cette histoire.
Ma galerie Paul, vous êtes toujours avec nous?
Oui, tout à fait, je suis là, je vous écoute chanter, Yasmine, c'est formidable.
Oh, merci, vous êtes mon premier public, je suis ravie. Dans ces salles de karaoké, je pense que les gens, finalement, au-delà de, voilà, qu'ils chantent bien ou qu'ils chantent moins bien, c'est encore une fois se laisser tous ces problèmes à la porte, se libérer.
Oui, se libérer et puis accepter de chanter devant les autres. On a tous vu ces petites scènes d'effets de groupe avec « Allez, viens, prends le micro, vas-y !» Voilà, il y a quelque chose qui nous pousse, enfin qui pousse les personnes qui ont envie de chanter à le faire. Et j'imagine, enfin, je suis mal placée pour le dire parce que j'ai été habituée à ça, à chanter devant les gens et tout. J'apprends en prenant de l'âge à observer ceux qui le font pour la première fois et ça m'émeut énormément. Quand j'étais plus jeune, j'étais moins réceptive à ça et j'étais même très honnêtement moins tolérante. C'est-à-dire que j'avais tendance à penser avec désinvolture, comme dirait Charles Aznavour, que ceux qui chantaient pas bien, ils avaient pas besoin de chanter, c'était pas grave. Mais c'était ridicule parce que ça. Ceux qui acceptent de prendre le micro et de chanter devant une assemblée, qu'il y ait 2, 3 ou 15 ou 50 personnes, ils brillent à ce moment-là, ils brillent à l'extérieur et à l'intérieur. Et ça, j'aimerais le ressentir pour la première fois. Vous voyez, c'est comme, la première fois...
Qu'on embrasse quelqu'un, voilà, j'en étais sûre. Mais on en revient à l'amour quand on parle du chant, bien sûr. Là, vous parlez toujours de cette première fois et d'oser. Il faut savoir qu'en France, il y a 3,5 millions de Français qui chantent dans des chœurs, sans micro, sans podium. Et j'aimerais revenir à ce collectif, Marc Archambault, c'est une belle façon de mettre tout le monde sur un pied d'égalité.
Alors oui, d'ailleurs, on a, dans un des hôpitaux où je travaille, on a monté une chorale, et où les soignants, les proches et les usagers de la psychiatrie sont sur le même plan, c'est que des chanteurs. Voilà, et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on voit le relationnel est complètement différent.
Qu'est-ce que ça crée, en fait, entre eux?
On parle de partage, et souvent la vie, elle nous malmène. Et le lien à l'autre, il est parfois difficile. Et là, en fait, quand on chante, on a une expérience qui est positive. On a une expérience ensemble de quelque chose qui nous lie et avec lequel on prend du plaisir.
Et dans le cadre du soin, que les soignants et les soignés soient ensemble différemment, évidemment, c'est important.
France Inter, grand bien vous fasse, Yasmine Ouglis.
Les super pouvoirs du chant sont indéniables, mais encore faut-il se lancer. J'espère qu'on vous aura donné envie de le faire ce matin. Mais où, quand, comment? C'est des questions qui se posent, ça aussi. J'ai l'impression que chacun peut pratiquer... où il se sent le plus à l'aise. Et figurez-vous que j'ai découvert un jeune homme qui, à défaut d'une scène et d'un public, chante dans un tunnel dans son quartier le soir. Il s'appelle Djibril Zinedine, on l'écoute.
Habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazade. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canary. Et une chatte pour laisser maman reposer. Très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave et j'essuie.
Vous pouvez découvrir toutes ces chansons sur les réseaux sociaux. Il fait pas mal de reprises, bien sûr. Là, on découvre aussi cette puissance vocale. Lui, il utilise un tunnel. On peut le faire, on peut le faire sous la douche aussi. On a une bonne réverbération. Magali Ripoll, qu'est-ce que ça vous évoque, ce que fait ce garçon ?
Alors, ça me rappelle un souvenir très personnel. C'est que quand j'étais petite, je chantais à tue-tête dans les toilettes chez mes parents.
Ah oui, je l'ai fait ce matin d'ailleurs et je me suis dit que c'était un bel endroit.
Alors, c'est un bel endroit. Alors, ça dépend de la forme de la pièce, parce que ce dont bénéficie ce chanteur et ce qui aide aussi à prendre confiance en chantant, c'est cette fameuse réverbe.
Voilà.
Quand on chante dans un univers trop sec, voilà,
oui,
où
oui.
on entend vraiment notre voix trop proche, on a plus de mal à se lancer que quand on entend une sorte de continuité comme ça qui vient nous enrober la voix et nous accompagner. Et moi, quand j'étais petite, je hurlais, je restais des heures aux toilettes et tout le monde râlait dans la maison, toquait à la porte parce que ça résonnait, le plafond était très haut, c'était une vieille maison avec et ça résonnait, il y avait du carrelage, c'était la totale. Donc moi je faisais la Castafiore dans cette pièce.
Donc vous faisiez pareil en fait que fait Djibril Zinedine, vous chantiez avec un écho incroyable et ça vous donnait la force et la puissance pour vous lancer. Marlène Schaff, vous qui enseignez et notamment aux élèves de la Star Academy, ce pouvoir-là de l'écho, en fait, on le découvre au fur et à mesure parce qu'en fait, ça nous aide à bien chanter. On peut tous mieux chanter grâce à cette réverbération.
Oui, c'est sûr que ça aide. Je rejoins complètement ce que dit Magali. Et puis, c'est vrai que la première rencontre avec le chant, c'est notre son acoustique. C'est rare qu'on se dise, tiens, je vais chanter, je vais m'acheter un micro, une sono. On commence juste comme ça. Et c'est vrai que, d'ailleurs, je me souviens, quand j'étais coach vocale sur l'émission The Voice, on avait des escaliers pour se rendre sur les studios où il y avait une réverbe de dingue, et souvent les superstars choristes de l'émission qui est vraiment des chanteurs exceptionnels, ils allaient répéter leurs harmonies vocales dans les escaliers, mm-hmm. parce qu'il y avait un son super, moi j'étais au concert, je les écoutais, ils savent pas, je vous le dis, hein, je vous écoutais.
Voilà, c'est dit. Prendre des cours de chant, ça peut être une manière de se rassurer.
Bien sûr. Après, faut faire très attention. Parce que les cours de chant, alors moi, évidemment que je dis à tout le monde il faut y aller, parce que le chant, évidemment, c'est un instrument naturel, mais plus on va apprendre la technique, plus on va le faire de manière saine. Mais il faut faire très attention, parce que c'est un métier qui n'est pas vraiment légiféré en France, et il y a énormément de personnes autoproclamées, et qu'on vit pas dans le monde des bisounours, et que je le dis et le redis et le redis, un chanteur n'est pas un professeur de chant. L'enseignement du chant, c'est un apprentissage technique. Moi, j'ai chanté pendant des années, j'étais absolument incapable de l'enseigner. Mm-hmm. J'ai appris à enseigner le chant.
On peut mal chanter, en fait.
On peut mal chanter, on peut ne pas savoir ce qu'on fait, puis on connaît notre propre voix quand on est chanteur. Moi, je suis soprane. Quand j'étais juste chanteuse et que je n'avais pas appris à enseigner, j'étais bien incapable de connaître l'instrument d'un ténor ou d'un baryton. Ça s'apprend, ces choses-là. Donc, il faut bien s'assurer de ça quand on choisit un prof de chant.
Mathilde Reiss, vous qui êtes orthophoniste, vous pouvez nous en parler de ça, du fait on peut parler de se casser la voix, de se faire mal, en tout cas aux cordes vocales, si on chante mal.
Oui, tout à fait. Il y a des placements qui sont vraiment néfastes, et donc pour ça, parfois, on a des gens qui viennent nous voir en orthophonie pour essayer de réparer et de prendre en fait des bonnes habitudes vocales, que ce soit par exemple bien s'hydrater. Ça, on n'y pense pas aussi souvent. Éviter les raclements de gorge en permanence,
allez,
comme ça. Voilà, un petit verre d'eau. Donc oui, il y a vraiment des habitudes et des plis qui peuvent être destructeurs pour la voix.
Faut faire attention à qui on confie sa voix, donc ça c'est un petit avertissement ce matin. On parlait tout à l'heure, Mathilde Reiss, des événements Chant pour tous. Est-ce que vous pouvez nous en parler en détail? C'est-à-dire, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est ouvert à tous? Quand est-ce qu'on peut s'y retrouver si on a envie?
Oui, alors il y a un site internet qui est dédié à ça, qui est chantpourtous.com, sur lequel en fait sont répertoriés tous les événements qui se passent en France et même à l'étranger. Donc si vous voyagez et que vous avez envie de faire un chant pour tous, vous pouvez aller regarder s'il y a un chant pour tous près de chez vous. Et dans ce cas-là, il y a une carte sur laquelle en fait vous rentrez le lieu où vous êtes et vous allez tomber sur tous les différents événements proposés. Et il suffit de cliquer sur l'événement qui vous intéresse, de rentrer votre mail et de vous inscrire.
C'est dit, c'est entendu et le rendez-vous est pris. Magali Ripoll, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, je suis toujours là.
Alors là, je vais poser la question à 1 million. Quelle est, selon vous, la chanson qui donne envie de chanter?
Oh là là là, là, on a tellement. Alors, ça dépend, envie de chanter ou envie de se lâcher.
Mmh. Bah, dites-nous les deux.
C'est vrai que J'irai où tu iras, on a entendu un extrait tout à l'heure. C'est, pour moi, c'est justement la chanson sur laquelle on peut se lâcher et se faire plaisir en karaoké. Et en plus de ça, c'est un duo. Donc, comme ça, on peut tenir la mimine de la personne qui est avec nous. On se sent moins seul. Voilà, après, il y a d'autres chansons. Si je vous dis, Yasmine, si je vous dis, j'avoue, j'en ai bavé, pas vous.
Mon amour.
Bah non, là, c'est Marlène. Moi, sortie de Céline Dion, vous savez, il ne reste plus grand-chose. Je vous remercie beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous ce matin. J'espère que notre discussion vous aura convaincu des super-pouvoirs du chant qu'on peut tous ressentir selon qu'on pratiquera seul ou à plusieurs. Un grand merci donc à vous, Marc Archambault, à vous, Mathilde Ress, Marlène Schaff. On pourra vous retrouver sur scène avec Queen is Born, c'est votre spectacle. Et votre single sort la semaine prochaine. Magali Ripoll, on vous retrouve sur France 2 tous les soirs pour N'oubliez pas les paroles et en tournée en septembre et en octobre avec la troupe de l'héritage Goldman. Merci. Quant à moi, cette émission sur les super pouvoirs du chant était ma dernière sur les ondes de France Inter. Je remercie sincèrement, merci tous les auditeurs qui m'ont encouragée pendant tout ce mois d'août à travers leur retour sur les émissions que nous vous avons proposées. Merci beaucoup. J'ai pris énormément de plaisir à écrire ces émissions, à les imaginer, puis à les animé. Un grand merci à la direction de France Inter, la direction des programmes pour sa confiance qui m'a obligée à donner le meilleur de moi-même en ce mois d'août. Je remercie du fond du cœur l'équipe qui a travaillé sans relâche à la préparation de ces émissions et qui m'ont accompagnée avec une bienveillance rare, c'est l'émotion là qui commence. Jessica Bagic, Lucie Grandelavine, Noélia Filiol, Elina Garcia et Eléa Cor. Un grand merci à notre réalisatrice Maria Pasquet pour tous les sons qui ont merveilleusement illustré tous les thèmes que nous avons développé pendant 4 semaines ensemble. Voilà.